RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, continuez de venir discuter avec nous au 32-16, bien évidemment. Aujourd'hui avec Didier Giraud, l'agriculteur de Saône-et-Loire, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, et puis nous sommes avec Sandrine Pégan, avocate. C'est la troisième heure des GG, troisième heure des grandes gueules. On va parler des repas à 7 euros dans les cantines, avec des plateaux quasiment vides pour les enfants. C'était le coup de gueule du chef cuisinier Michel Saran. C'est le plateau de la cantine de sa fille, en fait. Et il a poussé un coup de gueule. Pour 7 euros, il n'y a que ça. Alors, est-ce qu'effectivement, bah, là encore, c'est un problème, ce que l'on sert à nos enfants? On en parlera à midi moins 20.
Quand tu vois la photo, tu as l'impression que c'est un plat qui a été donné à un prisonnier.
Un tolard, oui, effectivement.
C'est la gamelle.
7 euros,
ce qu'on appelle la gamelle.
Les prisonniers mangent peut-être mieux, j'espère, mais peut-être que les prisonniers mangent mieux.
C'est le prix à peu près d'un kilo de bourguignon. Brut.
Alors, un kilo, hein.
Avant de lancer ce sujet, je voulais m'excuser auprès de Caroline, la joueuse de foot du Paris Saint-Germain, là, parce qu'on n'a pas eu le temps de la remercier pour son intervention.
Oui, on était pressé. Merci, par le merci temps. D'avoir été là.
Merci, merci Caroline d'avoir Désolé. Été avec nous.
Et ici, c'est Paris.
C'est l'OM. Vive l'OM, pardonnez-moi.
Bah oui, c'est vrai, parce qu'on est marseillaise ici.
T'as pas honte de dire ça?
D'ailleurs, ce soir, t'es pas un peu angoissé face à Rennes?
Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Je me sens très très bien et je sais qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes.
Alors, si on parlait maintenant des vandalisations des radars. Alors, écoutez bien. Est-ce que vous comprenez ceux qui aujourd'hui cassent les radars, vandalisent les radars? En disant, c'est des pompes à fric. C'est au 32-16 que ça se passe et on a un exemple précis.
Dernier réglage pour ces gendarmes.
Chef, ça mord.
Le radar embarqué est paramétré.
Gendarmerie nationale.
Fixé sur le tableau de bord en toute discrétion.
Oh putain, c'est du gros ça.
Il va permettre de flasher les voitures qui dépassent la vitesse autorisée.
306.
Sans votre respect, chef. Pas plutôt que c'était une 406, hein.
Mais non, 306, c'est la vitesse enregistrée, abruti, préviens les motards.
On a un radar qui a été vandalisé pour la 6e fois dans le sud-ouest. Les automobilistes en ont marre de devenir des pompes à fric.
Et ce radar n'est que le symbole de ce qui se passe partout en France, parce que dans tout le pays, il y a des centaines de radars qui sont régulièrement vandalisés sur les 4753 appareils que compte la France. Mais il y a quand même 4753 radars fixes en France. C'est un truc qui marche bien. 15% ne sont pas en état de fonctionner à cause de ces dégradations. Donc ce sont des radars qui sont brûlés, ce sont des radars parfois qui sont carrément bâchés. Alors ça, bâché, ça va, on peut débâcher, ça coûte moins cher. Ce sont des radars qui parfois sont embarqués. Il y a des tracteurs qui ont quasiment embarqué le radar pour le mettre ailleurs. Pourquoi ? Parce que le radar est devenu le symbole de l'État. Et c'est donc des cibles faciles à attaquer. Et notamment lors de la contestation agricole, beaucoup de radars étaient visés par les agriculteurs. Et ce sont des équipements qui sont visés à chaque mouvement social et pas d'ailleurs que par les agriculteurs. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous comprenez cette colère qui se manifeste contre les radars ?
32-16 pour le dire au GG. Jean-Loup Bonamy.
Non, mais moi, il y a plutôt quelque chose qui m'intéresse, c'est que tu vois que la voiture devient un sujet explosif, socialement et politiquement explosif en France. Souvenez-vous, la crise des bonnets rouges en Bretagne fin 2013, donc les bonnets rouges, c'était justement lié au portail sur l'écotaxe. Les gilets jaunes, la plus grave crise sociale que le pays ait connue probablement depuis 1968, c'était partie justement d'une histoire de taxation et ça avait déjà été préparé en amont par la très brillante idée d'Édouard Philippe, à savoir, ironique, à savoir la limitation à 80 km/h. Donc on voit, moi je ne soutiens pas et je ne cautionne pas cette destruction du matériel public qui est utile à la sécurité, mais je vois que la voiture devient un sujet de tension et en fait c'est assez révélateur d'une classe politique très parisienne, assez déconnectée des enjeux d'automobile et d'un pays réel qui lui a besoin de la voiture pour survivre et devient très sensible à ces questions.
Donc moi, faut pas mettre de radar.
Alors non, moi je constate surtout
moi
dans l'analyse, je constate la sensibilité du public, de la population française sur cette question, parce que ça devient vraiment existentiel pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour emmener ses enfants au sport, etc., etc. Donc je constate ça, et je constate l'écart entre la classe politique et le pays réel, la population.
Vous savez combien ont rapporté les radars en 2025 ? 889 millions d'euros, et sur les 889 millions, 340 millions ont été consacrés au fonctionnement et à leur réparation. Ouais, c'est quasiment un tiers. Donc un tiers des recettes servent à réparer ces dégâts.
Je crois que
plus t'en casses, plus qu'il faut qu'ils prennent en photo.
Et je crois que Gaston Lagaffe, alors c'est à propos des parcs-mètres, mais parle d'affreux manches fric. Et je pense que beaucoup de Français ont ce sentiment vis-à-vis des radars.
Les radars sont de plus en plus sophistiqués, donc de plus en plus chers à réparer.
Après, que je cautionne pas, c'est pas le problème. Souvent, les agriculteurs s'en sont pris au radar. Je pense que c'est aussi le symbole d'un État qui ne nous écoute pas, d'un État qui ponctionne, d'un État qui est parfois absent. Et voilà, c'est la symbolisation d'une colère. Après, derrière ça, je pense que c'est aussi parfois un manque d'imagination, les gens qui s'en prennent au radar. Enfin, quand t'es en action syndicale, rien ne t'empêche d'avoir un peu d'imagination et d'aller t'attaquer à l'État ailleurs que sur les radars. Et deux, à ceux qui s'en prennent en radar, je dirais, calmez-vous, parce que chaque fois qu'il y a un radar fixe, où on sait où il est de détruit, ils vont mettre en contrepartie des radars embarqués qui, ceux-là, vont nous prendre matin, midi et soir sans savoir où ils sont. Quoi. C'est là où c'est un peu dangereux.
Avec Waze, etc.,
mais après, le radar soit devenu la symbolisation de l'État, c'est d'abord parce que le radar c'est une pompe à fric qui est pas forcément dans des lieux accidentogènes, mais qui sont là pour te prélever un impôt. Et je pense que toutes les révolutions sont parties par une rébellion des gens contre l'impôt fiscal.
Jacquerie.
Non, mais les jacqueries, elles sont d'abord fiscales. Et du coup, le radar, ça devient...
C'est le symbole.
Voilà, moi, après, j'aurais quelques autres idées, s'il y en a qui veulent. Qui m'appellent en privé, je peux donner quelques idées pour faire autre chose.
Il y a un automobiliste dans le Var qui avait dégradé un radar. En fait, c'est un multi-récidiviste de l'infraction. Mais il est 78 ans. Il est allé dégrader le radar et il a écopé de 4 mois de prison avec sursis et 600 euros d'amende.
Et après, on dit que la justice est laxiste. 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour quelqu'un qui a 78 ans, c'est quand même cher payé.
C'est un petit récidiviste de l'infraction routière. Il a dégradé le radar.
Il a dit j'en ai marre de me faire choper.
Je fais juste une remarque.
Il n'est pas très malin.
C'est-à-dire qu'il y a une colère française. Les Français ont l'impression de payer toujours plus pour toujours moins de services. Dans un pays où tu payes toujours plus d'impôts, mais où les services public se dégrade et dans une France qui se tiers-mondise, et ils ont aussi l'impression d'un système qui est anarcho-tyrannique, c'est-à-dire qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est-à-dire qui est faible vis-à-vis des dealers, des trafiquants, des vrais délinquants, et qui en même temps rackette les citoyens ordinaires. C'est le sentiment que
les honnêtes gens et l'acceptation de l'impôt.
Exactement. Et donc
et c'est la sécurité routière, routière contre le pouvoir d'achat. C'est ce que tu veux dire.
Il y a aussi.
C'est-à-dire, t'es un dealer, t'agresses des policiers et tout. Finalement, on va être assez laxiste avec toi. Par contre, t'es un père de famille ordinaire qui se fait prendre dans un endroit piège par un radar, un endroit qui n'était pas forcément accidentogène, qui est mis là justement pour faire du fric, que toi tu vas prendre et que là, il n'y aura aucune complaisance envers toi. C'est ça le sentiment que les gens ont. Ils se font agresser, ils appellent la police elle arrête le gars il ressort le lendemain. Par contre, toi, alors là, c'est sûr que ton amende, on va te la faire payer. Et c'est ça que les gens ne supportent plus.
Mais c'est deux poids, deux mesures.
Bah oui, deux poids, deux mesures.
Il y a une personne qui est agressée, d'accord ? Donc c'est une atteinte aux personnes. Ok, donc il est évident que derrière tu as un risque d'emprisonnement. Là, on est en train de te parler d'un radar, d'une vitesse que tu n'as pas respectée. Et derrière, on vient te ponctionner parce que il faut aussi rappeler une chose, c'est que l'avis de contravention était envoyé en lettre simple. Et comme par hasard, la lettre simple, tu la reçois jamais. Sauf que donc là, c'est une amende qui est minorée. Et après, tu passes en amende forfaitaire. Et là, on te l'envoie en recommandé. Et c'est 350 euros. Tu peux comprendre que après, les Français, ils en ont marre.
Vous êtes la même chose. l'argent sert à la sécurité routière.
Oui, mais c'est parce que là, il disait qu'en fait, il fallait aussi que ceux qui étaient.
Non, c'est pas ça. Il dit. Non, ce qu'il dit, c'est pas ça.
J'ai vraiment rien compris.
Oui, c'est pas
grave. En fait, il voulait dire que les gens.
Pourtant, j'étais très clair.
Les gens sont plus dans l'acceptation de l'imposition.
En même temps, pas en même
les gens sont plus dans l'acceptation de l'imposition. Et cette imposition-là, autour du radar, elle est particulièrement injuste. Voilà.
Non, le
consentement
aussi.
À l'impôt, il n'y est plus.
Oui, mais non, il y a une double injustice. Parce que c'est une double peine, aujourd'hui, l'infraction routière. À la fois, tu dois payer et à la fois, tu perds des points. Bah, et quand tu perds des points, tu peux perdre ton permis. C'est quand même.
Sauf si tu prends un bon avocat qui te fait sauver.
Sauf si tu as Maître Pégan comme avocat.
Non, les
sauf
petits.
Sur les petits. Oui, mais ce n'est pas les petits qui te font perdre ton permis. C'est les grands excès
de vitesse. C'est l'accumulation de petits.
Sauf qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui. Tu perds un point et quand tu as un permis à 6 points, ça va très vite.
Oui, d'accord. Mais enfin, j'étais peut-être mieux placé que moi. Mais sauf aujourd'hui, tu ne perds plus de points pour les petits excès de vitesse. C'est Darmanin qui a retiré ça. Aujourd'hui, tu ne payes que l'amende. Tu n'as plus de retrait de points pour les petits excès de vitesse. Ouais. Mais quand tu as les deux choses, c'est-à-dire à la fois l'amende et le retrait de points, moi je trouve que c'est une double peine. Et là je rejoins Jean-Loup.
Merci.
C'est une double peine qui me paraît un peu sévère. Alors, simplement avoir roulé à 130 au lieu de 110 sur
nous sommes avec Yaru Zuresko qui est avec nous. Bonjour Yaru Zuresko.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre de la Ligue contre la violence routière, c'est
absolument.
Cela. Hein. Et que pensez-vous de ces dégradations de radars, cette vandalisation des radars alors?
Alors la vandalisation des radars... pour nous, c'est un peu une catastrophe parce que je peux comprendre que tout ce qu'on peut dire sur les radars, pompe à fric, machin, etc., n'empêche que d'une part, c'est du bien public, donc ça continue à me choquer, et surtout, les radars, ça contribue à la baisse de la mortalité et la baisse de l'accidentologie en France. Alors, nous, ça nous choque absolument. On est totalement opposés à cette dégradation des radars pour toutes ces raisons-là. Parce que c'est pour nous typiquement un mauvais combat. On se défoule sur ces radars.
C'est parce que c'est le symbole de l'État.
Ouais, ok, bien sûr, c'est le symbole de l'État. Bien sûr, on peut.
Moi, j'ai une question, Monsieur Zuresko. Est-ce qu'il y a eu des études de fait quant à l'accidentologie derrière des radars qui sont parfois à des endroits pas du tout accidentogènes, quoi. Parce que je pense que j'ai jamais bien vu des radars fixes qui se déplacent d'endroit. D'ailleurs, j'ai chez moi en Saône-et-Loire des radars très lucratifs. Et comme bizarrement, ces radars-là, ils sont jamais aux endroits où il y a les accidents, quoi. Est-ce qu'il y a des études de fait pour voir s'il y a un impact sur l'accidentologie et est-ce qu'on peut déplacer des radars fixes?
Alors,
par définition, non.
Alors, d'une certaine manière, la réponse à votre question, elle est comme souvent, la réponse est dans la question. Là où il y a des radars, effectivement, il n'y a pas d'accident. Donc, c'est qu'ils servent à quelque chose.
La chose à laquelle ils servent, c'est de collecter de l'impôt, oui.
Ah,
mais c'est pas dit qu'il y avait des accidents avant qu'on les mette, hein.
Voilà, c'est plutôt ça. Est-ce qu'on les met dans les endroits accidentogènes à chaque fois? C'est ce que tu poses comme question.
Oui. Ouais. Comment est prise la décision de les installer à tel endroit?
Quels sont les critères?
Ça c'est effectivement un autre débat et.
Intéressant.
Oui, mais ça fait partie de la colère. Souvent, il y a des Didier Giraud qui disent ah oui, mais alors ce radar, il est placé là uniquement pour faire du fric, mais pas parce que c'est un endroit dangereux. Donc, est-ce que les radars sont placés uniquement dans des endroits accidentogènes où on a étudié sur plusieurs années, effectivement, qu'il y avait à ce moment-là, à cet endroit précis, un problème de circulation?
Et que là, justement, ça serait vraiment sous le prisme de la sécurité routière.
Exactement. C'est ça.
Eh ben, écoutez, c'est en tout cas très souvent sur le prisme de la sécurité routière.
On peut le vérifier, ça?
Pardon?
On peut le vérifier que ça correspond à la cartographie des accidents?
J'ai pas
d'éléments. Soyons en toute transparence.
Ah, vous n'avez pas d'éléments?
Non.
Parce que c'est vrai que ça serait intéressant.
Donc, ça veut dire qu'on est un peu dans l'arbitraire.
Oui, donc voilà. Ça veut dire.
Moi, je me rappelle de deux cartes de l'Auto Plus qui étaient superposées. ça collait pas vraiment.
Alors, monsieur Zuresco, je vous remercie d'avoir été avec nous. Dans un instant, on aura Philippe. Il est préparateur physique dans les Yvelines. On sera avec Mallory. Il est facteur dans le Gard. Et ils nous diront tout le bien ou le mal qu'ils pensent des radars automatiques et de leur vandalisation. Restez avec les GG, il est 11h15.
MC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les Grandes Gueules, on vous donne la parole au 32-16 parce qu'on parle des radars qui sont vandalisés. Et je pose la question, Grande Gueule, est-ce que vous comprenez ceux qui vandalisent les radars ? Philippe, bonjour.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Du côté des Yvelines, alors, qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Alors moi, je, évidemment, bien entendu, de par moi-même, je n'irai jamais vandaliser quelque chose de l'État. Mais par contre, je peux comprendre un agacement pour le moins prononcé. L'excellent monsieur Bonamy a parfaitement résumé mon opinion.
Il y a des radars. Vous êtes un ami, non, de Jean-Louis?
On va laisser terminer.
Pas encore, ça ne va pas tarder. Mais je me suis amusé à traverser la France par les nationales pour aller dans le sud-ouest à Pau, et j'ai arrêté de compter au bout de 80 radars. Alors vous avez des endroits, vous savez même pas si c'est 80, 90, sur des lignes droites, dans les Landes notamment, c'est piégeux et tout. Par contre, vous avez des radars qui sont effectivement bien placés pour la sécurité routière. Je pense à celui qui est à Bièvre avant un virage serré sur la 118. Celui-là, il est parfaitement légitime. Et il y a des radars totalement illégitimes. Il y en a un notamment, je crois que c'est en Mayenne, après en paille, c'est un véritable piège, c'est même dangereux, parce que les gens, quand ils s'en aperçoivent, ils pilent. Voilà. Donc, vous pouvez être surpris. Alors, je sais pas qui décide de...
Vous avez encore vos 12 points?
Non, j'en ai perdu. J'en ai encore 7.
Voilà, alors, Philippe, je suis assez d'accord avec vous, là. D'ailleurs, quand on a posé la question au monsieur sympathique qui est avec nous de la Ligue contre la violence routière, il est incapable de nous dire précisément quels sont les critères d'installation des radars, alors qu'il est dans la partie.
Surtout l'évaluation.
Et moi, j'aime bien que le ministre des Transports, monsieur Philippe Tabarot, nous donne précisément les critères d'installation des radars. Est-ce qu'effectivement c'est en fonction de chiffres précis, de critères scientifiques, c'est-à-dire il faut placer les radars là où il y a le plus d'accidents, où c'est très dangereux,
lié à la vitesse.
Est-ce que c'est vraiment le cas,
Olivier? Lié à la vitesse, parce qu'aujourd'hui on est capable de faire une carte de France des accidents avec leur raison. Donc à un moment donné, qu'on concentre les moyens des radars et sur les endroits où c'est la vitesse qui crée
des dégâts. Tant qu'on n'aura pas les critères, je pense qu'il y aura ce soupçon.
Oui, mais Philippe posait la question de savoir qui décide. Et en fait, c'est un avis consultatif des maires et ensuite c'est le préfet qui valide. Donc d'abord, le maire est consulté, il a le droit de dire voilà
ça
sur
veut
ce
dire
positionnement.
Que le maire,
et après, le préfet valide.
Le maire, il se positionne sur des plaintes d'habitants.
Mais voilà. Philippe,
le dit. Parce que les habitants viennent voir le maire et disent ça roule vite devant chez moi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
C'est sur des accès de vitesse que vous avez perdu les points, vous ?
Moi, oui. Alors après, je vous parlerai pas des gens qu'on a envie d'étrangler. Vraiment, c'est les gens qui se baladent dans Paris avec les sulfateuses à radar. Hein, parce que moi, j'ai pris une amende de 200 euros à 19h59, hein, quand c'est gratuit à 20h. Là, je peux vous dire, quand vous recevez ça, vous avez effectivement une montée en pression. Vous avez envie de vous expliquer.
Bah oui.
Oui, 200 euros.
Et encore,
euros.
Ça, c'est l'amende minorée.
Et vous prenez un ticket, vous vous dites, bon, 19h59, c'est une minute après, c'est 20h, c'est gratuit. Le gars, il est passé, j'ai reçu l'amende 19h59.
Ah, ben, les sulfateuses à radar, c'est
alors
terrible.
Alors ça, là, les sulfateuses à radar, je peux vous dire, les gens qui sont là-dedans, ce sont vraiment, c'est vraiment du racket pur et simple.
C'est des boîtes privées. Qui sont payées au chiffre.
On va aller dans le Gard, écouter Mallory, qui est facteur. Bonjour, Mallory.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites, vous, aujourd'hui, de la vandalisation des radars? Est-ce qu'il y en a eu vers chez vous, là, dans le Gard, qui ont été vandalisés ou pas?
Alors, des vandalisés, oui. Il y a les fixes mobiles, ceux qui déplacent de temps en temps, on peut les retrouver, ils sont retournés dans le mauvais sens. Ou alors, j'en ai trouvé qui étaient vandalisés, mais mignons, entre guillemets. Ils avaient mis des guirlandes de Noël autour, ils ne l'avaient pas détruit, quoi. Et ça, à la rigueur, je trouve que c'est... moins grave que de le détruire complètement.
Mais cela dit, vous comprenez qu'on puisse les vandaliser ou les cacher, quoi, si j'ai bien compris.
Alors, je peux comprendre qu'on les vandalise ou qu'on les cache. Après, c'est des fixes. Les fixes, on sait où ils sont généralement. Je veux dire, j'ai 44 ans, j'ai le permis depuis 2018, ça fait 26 ans de permis. J'ai dû avoir 10 PV. Et donc parce que vous, je conduis tous les jours.
Parce que vous respectez la limitation, quoi, en fait, c'est ça. Vous faites très attention, oui.
Régulateur, je fais attention. Et si c'est 90, je roule à 90. Je fais pas comme certains qui arrivaient au radar pile d'un coup pour descendre à 75 sans aucune raison, en fait.
Sur l'argent qui est récolté par les radars, donc près de 900 milliards chaque année.
900 millions.
Et 900 millions, pardon, chaque année. Il y a 75%, en gros, c'est pour la sécurité routière, donc pour l'amélioration des infrastructures, les collectivités. Il y a quand même 20% pour le désendettement de l'État. Sachez que lorsque vous roulez trop vite, vous désendettez l'État.
Les deux tiers, c'est pour l'amélioration des infrastructures.
Oui,
routières.
Alors, et les collectivités. Alors, est-ce que les collectivités utilisent cet argent véritablement pour les infrastructures? Là aussi, ça serait bien de vérifier si effectivement ça va à la réfection des routes, à la suppression des nids de poules.
Et on a une petite pensée pour notre camarade Thomas Sojo.
Je pense à Thomas parce que qui a eu un grave accident de vélo à cause des nids de poules à Paris. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup à Paris. Malgré
Non mais vous avez
raison. L'argent des radars doit servir à ça, à réparer les nids de poules, pour protéger les cyclistes, pour protéger les automobilistes.
Et je peux vous assurer que les procédures après, quand vous voulez vous constituer partie civile contre la mairie, parce que justement vous pouvez attaquer la mairie par rapport à ces problèmes, c'est une tannée, c'est un parcours du combattant. Ils se renvoient tous la balle, donc on fait expertise sur expertise.
Et ces procédures qui peuvent durer combien de temps?
Oh là là, bon après j'ai pas de statistiques, mais en tout cas facilement 2 ans. Hein,
mais toi, les sulfateuses à radars qui sillonnent les rues de la capitale toute la journée, cet argent...
Elles ne prennent pas les nids de poule.
Alors attends, j'ai un accident avec un préjudice parce que la chaussée est en mauvais état, etc.
J'ai un dossier là en cours.
Tu me conseilles de me retourner à ce moment-là contre les pouvoirs publics.
Parce que
les maires ruraux, c'est leur principale activité.
J'ai une de mes clientes, elle faisait du shopping avenue Montaigne. Bon, jusque-là, tout va bien. C'est que madame vit confortablement. Mais figurez-vous qu'à un moment donné, il y a eu des travaux et c'était signalisé, sauf que malheureusement, pas très bien. Du coup, ça avait dû être à un moment donné déplacé. Et elle est tombée dans un trou. Elle a tombé sa jambe gauche. Donc je crois qu'elle a eu, je m'en souviens plus très bien, mais parce que c'était il y a un an et demi, le tibia cassé, etc., de la jambe gauche. Et ben donc elle est venue me consulter. Et donc là, on a attaqué la mairie. La mairie, donc le service des voiries, etc., sur le fait que ça n'avait pas été bien signalisé, sur le fait qu'il n'y avait pas eu de prévention en amont. Et puis ils se retournent tous la balle. Non, c'est pas mon service, c'est un service externe, etc.
Aux États-Unis, tu ferais payer cher la mairie.
Tu prends $1 million là, facile.
Oui, donc voilà, on va revenir sur des proportions un petit peu plus...
On en revient toujours au même point, la tiers-mondisation de la France. Oui. On voit que les choses y fonctionnent. Je crois qu'il y a 25 000 ponts, d'après un rapport du Sénat en France, qui menacent d'effondrement. Là, on avait notre auditeur qui nous appelait, Majib, pour nous dire qu'il y a de gros problèmes dans la maintenance des infrastructures de transport en commun, du rail en fait. Mm-hmm. Donc voilà, il y a quand même un vrai problème, c'est-à-dire tu payes toujours plus par les radars, par les impôts, il y a toujours plus de dettes et il n'y a pas de service en contrepartie. C'est quand même, on n'arrête pas de dire ça depuis le début de l'émission.
D'où le vandalisme.
D'où l'acceptation de l'imposition qui est pu et le radar qui devient une cible. Enfin, tout ça, c'est le même mécanisme.
Eh ben, on va en parler avec
vols.
Mallory, merci d'avoir été avec nous. Bonne route.
De rien, bonne journée à vous.
Salut Mallory, du côté du Gard. On va aller en Gironde retrouver Patrick qui est retraité de la gendarmerie. Ah. Un fidèle des GG. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Salut Patrick. J'imagine que du côté de la Gironde, du vandalisme de radar, il doit y en avoir.
Alors actuellement, je n'en sais rien. Je serais malhonnête de vous dire si c'était le cas ou pas. Moi, si vous voulez, moi, je me permets de vous appeler. Alors, je ne cautionne absolument pas les destructions ou les dégradations de radar fixe.
Nous non plus.
Moi, je pense que les neutraliser, c'est déjà une chose, plutôt que de les détruire, parce que comme vous l'avez dit pendant l'émission, il faut réparer. Oui. Et réparer, ça coûte de l'argent. Et c'est quand même de l'argent des Français. Mais je pense qu'un radar, ça a une certaine limite d'utilisation. Parce que j'avais pris l'exemple de Monsieur De Soto.
Thomas Soto, d'RTL.
Sur Paris, sans doute.
Oui, oui. Il a pris un nid de poule, il est tombé à vélo.
Est-ce qu'un radar pour faire les constatations?
Il aurait fallu...
Cherchez pas, c'est pas possible.
Ah, alors vous voulez qu'on remplace les radars par des agents, c'est ça?
Non, de remettre des gendarmes.
Ouais,
remettre.
C'est ça.
Mmh. Ouais, vous remettre du bleu. Je vous avais dit quand vous étiez passé à Mérignac sur la mob, sur la DOP, la défense opérationnelle du territoire. Puisque j'étais venu vous voir quand vous étiez à Mérignac,
oui.
Pour la dédicace.
La dédicace, oui, fait. Oui.
Et bien, en fait, on peut dire exactement la même chose pour la police de la route. Autrefois, vous aviez des gendarmes,
c'est vrai,
dont j'ai fait partie, qui faisaient des services vitesse, c'est-à-dire qu'on prenait un cinémomètre mobile, on allait se mettre à un endroit où notre commandant de brigade nous indiquait qu'il y avait des excès de vitesse. Alors, c'était pas spécialement sur des voies rapides, hein, entre guillemets, mais ça pouvait être dans des zones pavillonnaires où vous aviez des usagers qui roulaient vite. Et on relevait des infractions. Voilà.
Ça se fait, mais moi.
Un accident corporel ou un accident mortel de la circulation, il sert à quoi le radar? Il ne sert strictement à rien.
Eh oui, c'est vrai, parce qu'on peut
quand
pas le déplacer.
Vous avez des violences, vous avez une avocate sur le plateau.
Oui.
Demandez-lui combien de radars elle a vu sur des procédures établies par la gendarmerie. Elle n'a jamais vu le numéro de série d'un radar. Alors que le nombre d'un gendarme, elle en a vu.
Oui.
Parce qu'un gendarme, ça sert malheureusement à beaucoup trop de choses, puisqu'il y en a malheureusement encore de moins en moins. Mais les radars, ça ne sert. Alors bien sûr que c'est préventif, parce que malgré tout, les gens, comme l'a dit Didier tout à l'heure, ben, vous avez des bourrins qui roulent à 90, et puis tout d'un coup, hop, attention radar, on roule à 65. Ça peut être accidentogène, ça aussi. Hein. Et on peut provoquer un accident en faisant ça. Alors qu'un gendarme, ben, lui, ça peut servir à...
Mais Patrick, aujourd'hui, les gendarmes que l'on voit sur les routes nationales, les routes départementales, malheureusement, ils sont positionnés, ou sur l'autoroute, ils sont positionnés avec un pistolet pour mesurer la vitesse.
Oui, mais ce que dit, il a raison de dire, c'est que on a remplacé.
C'est ce que je voulais dire.
L'humain,
plus, on les fait flasher plutôt que de les faire patrouiller, quoi.
On a remplacé l'humain par les sulfateuses à radar. Avant, il y avait les pervenches, il n'y en avait plus. Maintenant, c'est les sulfateuses à radar qui sillonnent nos villes. Et effectivement, sur le bord des routes, il y a de moins en moins de gendarmes pour faire des contrôles et se déplacer, être là où c'est vraiment dangereux. Là, on a effectivement signalé des accidents. C'est pour ça que peut-être le ministère des Transports n'est pas capable de nous fournir la carte des radars en nous expliquant radar par radar pour qu'on l'a placé là. Parce qu'à mon avis, il y a d'autres raisons.
Et on va terminer.
Tu l'as dit, s'il y a 20% qui va au comblement de la lettre, il y a d'autres raisons. On est
prêt. Il y a 20%.
On va terminer avec Thierry. Je remercie Patrick d'avoir été dans les GG. Thierry, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Thierry. Est-ce que aujourd'hui vous comprenez ceux qui vandalisent les radars ou pas?
En partie, oui, je les comprends. Mais vandaliser, nous, au niveau de la Fédération française des motards en colère, on n'est pas trop pour quand même. Parce que quelque part, c'est notre argent, c'est votre argent.
C'est, c'est l'argent des amendes.
Voilà, oui, mais c'est surtout l'argent des contribuables.
Oui.
Donc, qu'on mette un peu plus d'argent sur l'entretien des routes, mais bon, mettre des radars à des endroits où c'est pas accidentogène, là, on est contre. Moi, j'en ai bâché plusieurs, j'ai fait plusieurs TD par rapport à ça. J'ai un copain qui est décédé justement, comme disait Patrick, hein, pas à cause d'un radar.
Pourquoi?
Parce que bon, il doublait un poids lourd. Les voitures sont arrivées au niveau du radar, ont freiné. Ça s'est accumulé. Il n'a pas pu se rabattre. 32 ans, il a laissé deux gamins. Et voilà, j'en parle. J'ai encore la chair de poule.
Bien sûr.
Donc radar, vache à lait, il y en a marre. Je comprends.
Ça veut français, dire que le radar n'était pas dans une zone accidentogène,
non,
c'était juste pour flasher
tout,
sur de la
tout.
Vitesse, quoi.
Ouais,
en fait,
on ne sait pas. Peut-être
que
si.
Il était dans une ligne droite, un endroit pas du tout accidentogène. On n'est pas contre les radars qui sont mis dans des endroits accidentogènes. Il y en a qui ont fait leur boulot. Mais maintenant, c'est des radars pour rentrer de l'argent.
Ouais.
C'est pas pour sécuriser.
Je vous dis, 20% consacré au désendettement de l'État, ce n'est pas rien.
Mais oui, mais bon, le désendettement de l'État, bon, déjà, il y aurait une meilleure gestion de l'État, il y en aurait peut-être moins d'endettement. Hein, j'ai maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous savez qu'avant c'était 10% et que peu à peu cette part consacrée au désendettement de l'État ne cesse de grossir.
Ce qui prouve que donc il y a de l'argent à prendre pour désendetter l'État.
C'est là,
d'où la décorrélation avec les zones accidentogènes.
Je remercie Thierry de la Fédération des motards en colère d'avoir été avec nous. Radar vandalisé, vous comprenez? On va voir. Si vous comprenez, oui, vous comprenez à 77%. Merci à
la
tous.
La révolte gronde.
Et nous revendiquons plus de transparence.
Pour oui, vos appels au 32-16.
Des radars.
Et on va vous demander encore de nous appeler, d'appeler les GG dans un instant, parce qu'on va regarder les plateaux repas de la cantine. Là, c'est Michel Sarran, vous savez, le chef Michel Sarran, qui a poussé un coup de gueule en publiant une photo du plateau repas de sa fille à 7 euros. et en disant c'est pas possible qu'on ait aussi peu à manger pour 7 euros. À tout de suite avec les grandes gueules, midi moins 25. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4. J'ai l'impression qu'en fait, la ligne de conduite, le fil rouge presque de l'émission, c'est en a-t-on pour son argent.
Oui, c'est un peu
alors
ça.
Avec l'État jusqu'à maintenant.
Oui, c'est ça. Mais là, on va encore l'évoquer dans les GG, dans les grandes gueules, là, à midi moins 20, avec maître Sandrine Pégan, avec Jean-Loup Bonamy, notre prof de philo, et l'agriculteur Didier Giraud, savoir si on en a pour son argent à la cantine.
Je préfère manger à la cantine.
Carlos.
Avec les copains et les copines. Et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler un bon coup.
Tu connais
pas bien. C'est la génération de quelle année elle est celle-là. Mais je devais être jeune,
début 60.
Ouais, quelque chose comme ça. La cantine, c'est le chef Michel Sarran qui a publié. Tu vois, 1972, j'avais 9 ans quand elle est sortie celle-là. Donc imagine qu'on l'avait en tête, quoi. À l'époque où la télé était encore en noir et blanc, il y avait deux chaînes de radio.
Mais Carlos,
on avait à la
maison,
créé
des chefs-d'œuvre.
On avait un poêle au milieu, on se chauffait avec du charbon. Un peu ça.
Tu veux quoi, de la bouse de
vache? Ah, je croyais que c'était de la bouse de vache qui alimentait le poêle.
Est-ce qu'on en a pour son argent? Le chef Michel Sarran a publié une photo du plateau de cantine de sa fille. Sa petite fille.
Oui, ça se passe à Paris, rue Lamarque, ce qu'il dit précisément où se trouve l'école. Donc on y voit un plateau en inox avec 1, 2, 3, 4, 5 bouts de pommes. Je ne sais pas si le 5
c'est de la boule pomme. Fromage, 4 bouts de pommes.
Alors 4 tranches de pommes, un petit bout de fromage, un demi. C'est quoi?
Steak haché,
qui a une drôle de tête.
Et il manque les lentilles. Il le dit, en supplément, on a 50 grammes de lentilles.
Et à côté, c'est quoi? À côté, parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble.
Salade de. Je ne sais pas quoi.
Des salades qui ne donnent pas envie.
C'est pas du céleri ou quelque chose
comme ça. On a l'impression d'être en prison. Alors il manque les lentilles. Il le dit d'ailleurs, il manque 50 grammes de lentilles. D'ailleurs, c'est la seule réponse que la mairie du 18e arrondissement parisien lui a apporté en disant il manque des lentilles.
Voilà. Ce qui n'est pas terrible comme réponse, puisqu'il le dit dès le début.
Voilà.
En complément, 50 grammes de lentilles.
Ça veut dire que la mairie n'était pas très à l'aise. 7 euros. Alors 7 euros, c'est le tarif le plus élevé. Parce qu'il y a, vous savez qu'il y a 10 tranches à Paris, et souvent dans les villes c'est comme ça, c'est selon caution familiale, hein, on paye en fonction de ses revenus. La tranche la plus basse à Paris, c'est 13 centimes par repas. Là, on paye rien. Et en moyenne, c'est entre 2 et 3 euros par repas, ce qui n'est pas beaucoup. 7 euros, c'est vraiment le plancher haut. Mais c'est vrai que pour 7 euros, t'en as pas pour ton argent. Je peux comprendre que Monsieur Sarran soit un peu agacé.
Qu'est-ce que vous en dites?
Il y en a pour moins de 2 euros dans le plateau.
Là,
je sais pas vraiment ce que c'est l'entrée, mais il y en a pour moins de 2 euros.
Ça veut dire
que là, c'est à la fin du repas. Hein.
En fait, on veut des tarifs sociaux, et donc ceux qui payent 7 euros n'en ont pas pour leur argent, mais ils payent pour ceux qui payent 2 euros. Quoi.
Non, mais la cantine, c'est devenu un enjeu comme le reste, hein, pour équilibrer les comptes, d'ailleurs. Et à un moment donné, enfin, je l'ai souvent dénoncé ici, on ne peut pas faire croire aux gens qu'on va cuisiner correctement pour des tarifs comme ça, parce que je présume que si le prix le plus haut, c'est 7 euros, donc...
En moyenne, c'est 2-3 euros.
Le cuisinier, il doit sortir un menu à 2,80, voilà. 3 euros, et avec 3 euros, je suis désolé, tu fais pas bouffer des gamins correctement. Tu peux t'en approcher, allez, à 4-5 euros, si tu vas chercher des produits de la matière première et que t'as un cuistot qui transforme. Voilà, parce que les coûts de les volumes et le travail sur le fait de cuisiner, mais en même temps, quand t'as des salariés qui travaillent dans une cuisine tout inox à 200 000 euros avec des salariés aux charges du travail français, tu vois, voilà. C'est aussi compliqué. Et à un moment donné, on peut pas faire croire aux gens que la bouffe c'est gratos.
Oui, mais on peut pas on faire peut payer. Pas. D'accord, mais on peut pas faire payer 7 euros ça. Non
la,
plus.
La vraie démonstration, c'est que quand on va trop loin, on se retrouve avec des assiettes comme ça, quoi.
Voilà.
Et ça devient, je pense, pour équilibrer les comptes de l'école ou de je sais pas quoi, mais.
Non, pour permettre.
Mais c'est pareil que les radars, on va te piquer
non,
du pognon.
C'est pas ça, Didier. C'est pour permettre à certains de payer que 1 euro.
Mais peut-être.
Qu'on demande à Sarran et à ceux qui ont un peu plus de revenus de payer 7 euros. Sauf que la fille de Sarran, elle a rien dans son assiette.
Ah oui.
Après, il faut nourrir qualitativement nos enfants. En revanche, ce qu'on peut quand même donner comme crédit à la cantine, ils se sont quand même beaucoup améliorés. Maintenant, nos enfants, ils mangent. Bon, j'ai pas d'enfants, mais bon. Vos enfants mangent bio, mangent local. Ah ben, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Et si un vous leur posez
mieux,
la question,
un peu mieux.
Ben oui, oui. Mais alors là, le problème, c'est que
c'est pas non plus. C'est pas dingue. Hein.
Là, donc la qualité, elle a été augmentée, mais pas la quantité. Donc, on est en train de renoncer à bien nourrir nos enfants, alors que l'école et la cantine est censée aussi développer le goût des enfants.
Moi, ce que je vois dans le plateau, là, je ne suis pas sûr qu'il y a la qualité. Hein.
Et y a pas, en ça, tout cas, il n'y a pas la quantité.
Il n'y a pas la quantité, c'est
peut-être
sûr.
Que
la
après,
vous pouvez que les mômes vont ensuite grignoter.
Il y a un vrai doute sur la qualité.
Les lentilles devaient être très bonnes, parce qu'il n'y en a plus une seule qui reste sur le plateau.
Éric veut réagir. Éric, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous avez travaillé pendant longtemps, justement, dans les cantines scolaires. Dites-moi alors, qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai travaillé dans un restaurant gastronomique et en même temps, j'ai voulu un peu démontrer qu'on pouvait faire vraiment de la qualité dans du scolaire. Et ça a été réalisé avec succès dans beaucoup d'écoles. Mais j'adore Michel Sarvan, un chef que j'admire. Mais 7 euros, c'est pas ce que vous avez dans l'assiette, c'est faux. Je peux vous dire que dans les restaurants, alors ça dépend, c'est où vous êtes dans le privé, et dans ces cas-là, c'est géré dans le privé. Si c'est dans le public, bien souvent les mairies, à moins que ce soit autogéré, font très directement avec des sociétés de restauration que je ne nommerai pas, voilà. Moi, je suis dans le nord de la France, donc j'ai travaillé avec une société d'ailleurs très sérieuse, donc une parenthèse, dans le nord de la France. Mais 7 euros, c'est pas ce que vous avez dans l'assiette. Si aujourd'hui,
je comprends pas ce que vous dites.
Avec 7 euros, t'as tout le service, les AESH, le truc.
Voilà. Tout à fait. Mais oui, là, tout à fait. Faut arrêter.
C'est pas 7 euros qui pollue dans l'assiette, quoi.
Tout à fait.
Moi, là, 7 euros, c'est une arnaque de faire payer 7 euros ce type de repas. Excusez-moi.
Oui, mais vous avez les structures.
Il y a un plateau en alu.
Vous avez les structures à payer. C'est ça qu'il faut
savoir. Non. En fait, vous payez pour ceux qui payent rien. C'est un peu, c'est la France. Oui. Hein. Pardon. Excusez-moi. Je parle de la réalité. C'est que comme on veut des tarifs sociaux à moins d'un euro, eh bien, on fait payer certains 7 euros. Voilà. Le problème, c'est qu'à 7 euros, vous n'avez pas dans votre assiette. Alors, celui qui paye un euro, il peut être content. Il se dit, finalement, pour un euro, c'est pas mal.
C'est toujours, mais vous n'avez pas tort sur mais là, on n'est pas dans le sujet. Le sujet, c'est Michel Sarrant dit 7 euros dans l'assiette.
Pour sa fille.
Ce que je vois dans l'assiette, c'est un cordon bleu, et puis bon, il n'y a pas grand chose, effectivement, mais bon.
Lui, il paye 7 euros, il se dit, finalement, le compte n'y est pas.
Attendez, Eric, je me permets de vous interrompre.
Il a raison, Eric, dans le fait.
Attends, une seconde, Didier. Parce qu'on a une photo à montrer. C'est une photo de la fille de Johnny qui est en direct avec nous au 32-16. Bonjour Johnny.
Bonjour à tous.
Vous avez envoyé la photo là, voilà, du plateau de votre fille. On voit une assiette avec quoi ? 4 pommes de terre, 3 pommes de terre, un morceau de cordon bleu, 2 feuilles de salade, une pomme à yaourt. Voilà.
Exactement. Et pour 5 euros.
Pour 5 euros. Mais alors vous êtes scandalisé ou pas ?
Alors oui, scandalisé. En plus de ça, moi je fais partie de la commission restauration des parents d'élèves. On se bat pour améliorer la qualité et la quantité, parce que les jeunes lycéens, c'est des ados.
Elle a quel âge votre fille ?
Elle a 17 ans.
17 ans, on lui donne ça à manger ?
Ouais, exactement.
Il y a 4 pommes de terre, il y en a une, vous la voyez pas, elle est un peu cachée, hein, mais il y en a 4.
Comment vous voulez votre enfant
après ? C'est quand même... Alors allez-y Johnny, allez-y.
Elle est cachée sous la viande.
C'est un plat qui pour une... sans sauce, on peut demander la sauce, et en fait c'est du cache misère parce qu'on vient badigeonner l'assiette de sauce pour avoir un rendu, on va dire, de remplissage de l'assiette.
Donc nos enfants ne mangent pas assez à la cantine.
Pas du tout.
Oui. Parler de quantité.
Ça fait deux ans que je me bats pour ça.
Et qu'est-ce qu'on vous répond ?
Ça change
pas. Parce que du coup, vous répondez, Johnny, on peut philosopher sur ce qu'il y a exactement dans l'assiette. Est-ce que c'est bien, au moins, si vous êtes dans la commission ? Est-ce que les patates sont françaises ? Est-ce que la salade est française ?
Mais
à un moment donné, ça peut être du cordon bleu ukrainien, des patates qui viennent du Kenya.
Donc, crève la dalle, mais c'est français, c'est ça ?
Non, mais à un moment donné,
allez-y, Johnny. La direction du lycée et la chef de cuisine du lycée nous donnent des informations en nous disant qu'ils prennent des produits locaux. Mais on n'a aucune preuve de ça, malgré les arguments.
Et sur les quantités, qu'est-ce qu'il dit sur les quantités ?
Sur les quantités, il y a toujours des pirouettes en disant que c'est des photos qui sont prises en fin de service. Or, il est à 11h30, c'est le premier service.
Ah, il ment en plus.
Ah oui. C'est
un déni, quoi, en fait.
Exactement, toujours un
déni. C'est d'aujourd'hui, la photo, là.
Je l'ai envoyée, vous avez commencé le sujet, j'ai reçu la photo de ma fille.
Ce qui est bien.
ce qui est bien, c'est de voir que l'école de votre fille et vous, vous êtes vraiment dans une relation de confiance.
C'est là, vraiment.
Ouais. Voilà. Et on sent le.
Alors en commission, on nous dit qu'on va améliorer la qualité. Bon, ça c'est toujours bien d'entendre ça. La quantité aussi. Ça fait, je crois, 4 mois que j'ai fait la dernière réunion de commission de restauration du lycée.
Ouais.
Et en fait, c'est de pire en pire.
Non, mais Johnny, ça. Merci de
c'est
ce
là
dernier
où le combat de Johnny, il est important.
Ben,
parce
merci
que,
pour moi, la photo.
C'est ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, sur le message de la qualité, tu peux tout cacher, quoi. Parce qu'on va dire les patates sont françaises, la salade est locale, machin.
Mais là, c'est ce qu'ils disent.
Mais là, il n'en est même pas sûr, mais ce débat sur la qualité peut conduire à ça si vraiment il y a un effort,
voilà, à masquer le fait que vous n'avez rien à bouffer, mais c'est tellement bon.
Oui, c'est ça.
C'est
ça.
C'est tellement bio et c'est tellement local.
Bon, vous êtes sûr, oui, c'est beau et c'est bio et c'est bon et c'est bio et ça vient
il y a des restaurants scolaires qui vont jouer de ça
et je pense que les parents soient vigilants parce que
ça change rien, il est vigilant mais on lui raconte n'importe quoi.
La qualité déjà quand elle est annoncée et après.
Oui, mais comment tu veux vérifier?
Si parce que alors aujourd'hui dans certaines écoles, il y a des écoles qui ouvrent les portes et tu peux de temps en temps aller voir ce que mangent les gars.
Alors, est-ce qu'on a raison de râler comme Michel Sarran et comme Johnny vient de le faire là sur le plateau repas de la cantine? Vous dites oui à 87%.
Voilà. Au moins, il a joué les grandes gueules, Michel Sarran.
Et merci à Johnny et à sa fille aussi de nous avoir envoyé la photo de
merci
la cantine.
À Johnny. Merci.
On se retrouve demain 9h. Bonjour Estelle Denis.
Salut Alain, salut les GG. Nous, on va parler de la transparence des salaires qui est mise en place en ce moment dans les entreprises. Ça doit être mis en place avant le 7 juin. Est-ce que cette transparence, elle vous inquiète ou est-ce qu'elle vous réjouit? Est-ce que ça vous gêne, voilà, que vos collègues de bureau connaissent votre salaire? Ça, vous gagnez combien, Alain?
Je le dis déjà ici.
Oui, je sais.
Mais il a picoté.
Mais est-ce que c'était la vérité?
Ouais, c'est ça. On veut de la transparence. C'est le fil rouge de l'émission.
Est-ce qu'on a le droit de mentir?
Alors moi, j'ai une remarque. Je déteste la transparence et je suis contre la dictature de la transparence qui étouffe notre société dans tous les domaines.
Ça fait 3 ans. Eh bien, écoute, 3 heures qu'on en parle. Appelle au 32-16. On en parle dans un instant.
Non, je vais t'appeler.
On parlera de la fontaine de Trévi à Rome. C'est désormais payant.
J'y vais dans 15 jours.
Eh ben, c'est payant.
2 euros
pour aller voir la fontaine de Trévi. En fait, c'est pour préserver.
Parce qu'il y a une espèce de
trop de monde.
De barrage,
il y a trop de personnes par an. Et
une caisse
par jour, 30 000 personnes par jour.
Dire.
Est-ce qu'il faudrait faire pareil en France? En fait, faire payer l'accès à nos monuments pour préserver le patrimoine, parce que c'est ça, en fait, aujourd'hui. Oui. C'est nos impôts qui payent, en fait, pour financer la préservation des monuments, alors que ça pourrait être les touristes.
Voilà. Bah oui.
Ça, c'est une question qu'on se posera à midi et demi. On parlera de la baisse de la consommation de pain en France. On mange de moins en moins de pain. Est-ce que vous pourriez vivre sans baguette? Voilà. Est-ce qu'une vie sans baguette en France, c'est possible?
Faut pas vivre sans pain, moi.
Après, ça dépend, monsieur. Le pain blanc, c'est pas forcément très bon pour la santé, mais le pain aussi.
J'aime pas le pain. Non, j'aime pas le pain. Depuis toute petite, je n'aime pas le pain.
Ouais.
Et c'est même pas une question de gluten, quoi que ce soit.
Hein. J'ai jamais vu qu'il y a des boulangeries qui font des boulangeries sans baguette. Ça existe. Alors, c'est un peu bobo, je ne vais pas vous mentir.
Bah, ça m'étonne pas.
Du pain à l'épeautre. Mais il n'y a pas de.
C'est comme les bureaux de tabac.
Tu sens la boulangerie populaire de la France périphérique.
Ouais. Enfin, en tout cas, ça, on en parlera à 13h30. Et puis, 250 centres commerciaux en grande difficulté en France. Est-ce qu'il faut en finir, justement, avec.
Mais tu préfères
le 4. Alors, on a 2 anniversaires dans Estelle Midi aujourd'hui, Jean-Philippe Doux et Fred Hermel. Donc on parlera anniversaire dans le tu préfères.
150 ans à eux deux.
Tu préfères une grande fête d'anniversaire ou un gâteau en petit comité? Voilà, qu'est-ce que vous préférez? Une grande fête quand même.
Bah ça dépend.
Ben d'entendre avec nous, petit grand cadeau.
Alain, sorti.
Grand cadeau.
Je réfléchis à ce que je vais bouffer.
Eh ben j'étais en train de. Je sais que vous avez réservé une très belle table.
Un petit cordon bleu et des pommes de terre.
J'ai entendu tout à l'heure.
Au spot.
C'est au spot.
Ah oui, on a une grande table.
J'ai entendu.
Allez, bonne émission avec Estelle.